vagabondage. Une émission proposée par Thierry Margot, accompagnée par Cédric Dimos avec Bruno Bertrand à la technique. Balade intemporelle à la rencontre des gens, des choses, des musiques et des mots. Au cœur tranquille de Montpellier, le vieux Pierreux en a vu passer des manifestations en tout genre depuis le XVIIe siècle. Chaque génération y retiendra son événement. À ce jour, le mien s'est passé samedi 24 octobre. Ce soir-là, le Pérou était le point culminant à bien des titres. D'abord, par les problèmes d'organisation. L'événement était grand, rassembleur et médiatique. Le moindre couac avait donc peu de chances de passer inaperçu. Et là, des couacs, il y en eut plus d'un. Enfin bref, passons dessus, car heureusement, l'immense artiste qu'est John Baez s'est montré largement à la hauteur de tout le bien que l'on pense d'elle. D'abord avec Marianne, avec qui elle a bien assuré le coup, retourné une situation des plus déplorables. Puis la suite s'est passée comme sur un nuage. Par chance, j'étais assez bien placé, je ne pouvais rien rater de la moindre petite note. J'ai bu 2 heures d'un concert, d'un spectacle inouï où la voix et le talent de John Baez vous transpercent d'émotion jusqu'au sens du frisson. Maintenant, pour prolonger un peu ce délice et avant de retrouver, pour mon plus grand plaisir, d'autres talents locaux en la présence de Georges Nounou et Daniel Temstedt, voici un titre de son dernier album. Alors on va attendre Daniel Temstedt, hein, qui devrait pas tarder à nous rejoindre pour nous parler un petit peu du spectacle. Mais en attendant, Georges et Cédric, toi, tu connaissais John Baez, Cédric ?
Pour être très franc, je suis un peu jeune en fait.
Ouais. Il y avait pourtant, plein de jeunes.
Ouais, voilà ce que j'allais te dire, hein. Georges. Donc bonsoir. Hein.
Il y avait moi déjà.
Georges, c'est pas la première fois hein, qu'on se retrouve à vagabonder.
On peut pas dire ça.
Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que depuis que tu avais sorti ce nouvel album, on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver au studio.
Oui, et quand tu parles de nouvel album, je pense que tu fais référence à l'avant-dernier, en fait. Aux nouvelles du front,
Non, non, ça, on avait fait.
D'accord, qu'on avait fait.
Voilà, on avait. Moi, je parle de depuis la sortie, le dernier.
Et puis, on a fait, oui. Et puis, un an après, j'ai fait Demi-Sommeil, donc voilà. il y a quelques mois. Donc, qui est sorti, ouais, il y a, je sais pas, en avril, je crois.
Ouais, un truc comme ça.
Voilà.
Ouais.
Et là, il y en a un sur le feu qui va là, pas trop tarder.
Voilà, donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Mais en attendant, tu étais au concert de John Best
oui.
aussi. Hein. Un beau moment.
C'est un beau moment. Je l'ai dit beaucoup de fois et je l'ai dit à beaucoup de gens. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment un fan de John Best. Je dois dire que John Best, elle m'énervait beaucoup dans le temps où on la voyait quand j'étais plus jeune. Mais après, c'est un symbole, c'est une époque. Et puis, c'était un événement. Et puis voilà, je me doutais qu'il allait se passer quelque chose. Et il y avait 20 000 personnes. C'était quand même étonnant, quoi.
Voilà,
c'était un moment fort, oui, c'est sûr.
Moi, j'aime bien les artistes comme ça qui sont engagés à fond, qui sont cohérents avec ça. Moi, alors, c'est vrai que ta grande référence, c'est Dylan, hein, qui lui, justement, quand on l'attendait un petit peu trop dans ce truc-là, lui, il prenait systématiquement le contre-pied.
C'était ça, et c'est toujours. Enfin, non, maintenant, c'est plus d'actualité, mais c'était ça la grande différence entre Dylan et toute la vague folk. Dylan était folk à ses débuts. Et il a été accusé de haute trahison quand même partout par toute l'intelligentsia folk, par Pete Seeger, par John Baez aussi qui était sa maîtresse quand même. Ouais. C'était du sérieux quoi. Parce que il y avait dans toute cette vague, dans toute cette mouvance folk, un grand immobilisme, une sorte de comment dirais-je de conformisme. Dans
l'anticonformisme, en fait.
Mais Dylan était totalement à l'opposé de ça. Dylan a fait des chansons très engagées, très politiques, mais il était quand même un électron libre, il était quand même un poète.
Il était là
tout,
où on ne l'attendait pas.
Et il était quand même, quelque part, il était quand même rock, il était punk avant l'heure, il était anticonformiste complètement. Et c'est ça qui marque la différence entre Dylan et tout le reste. Mais moi, j'ai été voir John Baez aussi parce que j'attendais qu'elle chante du Dylan et j'ai pas été déçu.
Et en plus, elle l'a très bien chanté, contrairement à ce qu'elle dit elle-même. Hein,
on se serait cru il y a 40 ans.
Voilà, exactement, parce qu'à un moment donné, elle dit qu'elle a la voix, elle a plus cette même voix, etc. En fait, nous, on n'en a rien entendu parce que franchement, on est sur
un nuage.
Hein,
tu sais, c'est les grands artistes, ça. Elle a dit non, ma voix, c'est plus ça et tout, pour qu'on lui dise allez, vas-y, mais non et tout.
En tout cas,
ça allait très bien.
En tout cas, voilà, c'était une voix, une profondeur, quelque chose de magnifique, quoi.
Hein,
Un changé, ouais. Ouais. On en parlait des fois avec les gens, disent oh si quand même dans les aigus. Oh, bah moi, rien du tout, quoi, parce qu'elle a une tessiture, elle a une possibilité de monter dans la gamme absolument extraordinaire. Et puis de toute façon, on n'attend pas qu'elle monte, mais simplement.
On attendait l'émotion.
Voilà, l'émotion et on l'a eu.
C'est
en plus, bon, un son plus que correct, hein, parce qu'il y avait du vent et tout ça, c'était pas évident. Et je trouve que bon, au moins de ce point de vue-là, c'était réussi. Bon, après, les couacs, moi je trouve lamentable qu'il n'y ait pas eu la première partie. C'était quand même simple d'organiser quelque chose. C'est un peu lamentable qu'on n'ait pas eu cette première partie parce que franchement, moi j'en fais partie. Il y avait beaucoup de monde aussi qui était venu parce qu'il y avait ce double événement, quoi. Il y avait Marianne quand même qui devait se produire sur cette scène devant tout ce monde et en soi, ça constituait déjà un événement. Et puis, comme elle le dit dans sa chanson, Marianne, elle a mis 17 ans à passer de la rue de la Loge à la scène du Pérou. Elle était déjà passée là, d'ailleurs, avec le Jinko Lubiloba. Mais là, c'était pour elle un événement parce que toute petite, ce qui l'a amenée à chanter, Marianne, c'est John Baez, quoi. C'est sa mère qui revient d'un concert, qui lui dit « j'ai vu quelqu'un ». Et elle a vu dans les yeux de sa mère, elle le dit dans sa chanson qu'elle a improvisée, elle a vu dans les yeux de sa mère qu'elle avait entendu une femme fantastique, qu'elle avait vu un spectacle fantastique, merveilleux, avec une femme avec un engagement, qui parlait de la souffrance des gens, qui parlait de révolte, et que c'est de passe comme ça les évers. Et ça l'a marqué toute petite, l'affection de sa mère à la suite de ce concert. Et elle l'a dit, dans sa chanson improvisée, là, elle l'a dit. Et John Baez qui dansait avec elle, parce qu'elle a su rattraper le coup, justement, John Baez, en prenant Marianne par la main, en l'amenant sur scène, en dansant avec elle, en chantant, elle a fait une chanson avec elle, puisque Marianne a entonné une chanson en espagnol et elle est venue chanter avec elle.
Enfin, bon. Ce qui confirme que c'est jamais les artistes qui posent problème, en fait, même sur les grosses tournées.
Oui.
C'est toujours les producteurs.
Les producteurs,
donc,
voilà.
En parallèle avec le marché du disque, débarrassons-nous des producteurs. On se débrouillera très bien sans eux.
Ah oui, parce qu'en plus, tous les musiciens, un par un, sont venus soutenir Marianne. Ouais. Ils arrivaient un par un et Jen Bess dessus. Enfin, c'est, oui. Oui, oui, là, je veux dire, on ne pouvait pas au moins l'entendre. Mais avant que ça se passe, quand même, on avait déjà, on était en train de mesurer une certaine déception de l'artiste elle-même de laisser faire ça, quoi. Mmh. Et quand on commençait à entendre des gens qui disaient, mais quand même, cette femme qui se bat pour le combat des femmes et tout ça, comment appeler? Et puis, elle a retourné complètement.
Ouais, c'est bien. Et puis, bon, par rapport à son engagement, par rapport à ce qu'on sait d'elle, elle se retrouvait un peu au pied du mur. Donc, il ne fallait pas décevoir. Ouais, ça aurait été dur. Ouais. Il y a des artistes qui se sont mal comportés dans ce genre de situation. Ouais. Bon, mais pas elle. C'est à son crédit.
Ce qui prouve qu'elle était à la hauteur de.
Une grande dame.
Et puis de. Comme on dit, hein, le Pérou, c'est la situation la plus haute de Montpellier. Hein. C'est pour ça qu'il a été choisi pour cette balade, pour dominer tout Montpellier. Bah là, ce jour-là, en tout cas, c'était dominé à double titre par une sorte d'intelligence et de talent artistique. Eh bien, tant mieux, c'est bien passé. Et voilà, on est encore dans l'émotion. Georges, donc, tu nous en parlais à l'instant. Ton actualité, c'est un album qui est sorti il y a quelques mois. On sait que, comme beaucoup d'artistes, quand un album sort, il y a déjà quelque chose sur le feu, mais il y a quand même, on fait vivre un petit peu l'album quand même.
Oui, on se force un peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un décalage.
C'est-à-dire parce qu'au moment où sort l'album, il y a déjà pas mal de tournées.
Pour moi, c'est cru à dire, mais quand l'album sort, pour moi, c'est une histoire qui se termine. Ouais. Après, il faut qu'il ait sa vie, il faut qu'il y ait des concerts derrière, il faut qu'il y ait de la promo, des radios, bon, tout ça, on s'en occupe. Mais dans la mesure où je peux, je laisse les gens autour de moi s'en occuper. Je suis là quand il y a besoin d'être là. Mais pour moi, c'est quand même une histoire qui est bouclée. Et quand je sors un album, en général, je suis en train de penser au prochain. Qu'est-ce que je vais mettre sur le prochain? Je fais le compte des erreurs que je ferai plus sur le prochain, de tout ce que j'ai pas fait encore et qu'il faut que je fasse sur le prochain. Alors, c'est un peu ça.
La discographie, elle est impressionnante maintenant parce que donc il y a Georges Nounou, il y a deux albums, mais avant les Georges Nounou, il y avait Caravanserail.
Oui.
Il y a combien d'albums? Il y a eu les
Caravanserail, il y en a pas beaucoup. Il y en a deux.
Deux. Les êtres humains.
Il y a quatre albums des êtres humains. Il y a
Brassens l'Irlandais.
Bon, voilà, ça pour moi c'est ma discographie officielle. Et dans cette discographie, je mets aussi Au Mamao, l'album de l'avant-dernier spectacle pour bébé. Alors, parce que ça a été une réussite. Je dirais même que c'est mon meilleur album. Ouais. C'est inattendu, mais c'est un des trucs les plus aboutis.
Je vous conseille d'ailleurs d'aller sur vous allez sur Google, hein, vous faites Au Mamao. Et on en reparlera, hein, mais voilà. Vous verrez, rien que le visuel de ce spectacle, et moi pour l'avoir accueilli et pour avoir vu, programmé.
Voilà, le bocal à poisson, les histoires de poisson. Et ça, ouais, c'est un album que. D'ailleurs, je crois que c'est l'album qu'on vend le plus, en fait.
Alors, voilà, on va justement parler, c'est bien d'avoir parlé de Momao, parce qu'on vient de parler donc le caravansérail, etc., des êtres humains. Avant, il y avait les ratons laveurs aussi. Tout début.
Une dizaine d'albums en tout, en gros. Hein.
Voilà. Donc, et puis, il y a l'autre côté de la carrière de Georges Nounou qui est le spectacle enfant. Alors, c'est pas vraiment l'autre côté parce que je pense que toi, c'est un tout.
Mmh, oui,
hein, je pense que tu le prends comme un tout, mais c'est quand même des temps de création différents. D'ailleurs, tu es plus en. Les spectacles, tu les fais plus avec, en duo avec spectacles
Daniel
pour enfants.
Hein,
avec Daniel Temsted. Donc, le travail n'est pas. Même la recherche, tout ça, n'est pas tout à fait la même.
Oui. C'est pas très exact de définir une branche spectacle pour enfants par rapport. En opposition à la musique. C'est-à-dire, les deux branches, c'est la musique et la compagnie de théâtre, ouais, avec laquelle on a fait finalement plus de spectacles adultes que de spectacles enfants. Mais c'est vrai que c'est nos spectacles enfants qui nous ont fait connaître.
Donc c'est le théâtre en flamme. Hein.
Le théâtre en flamme. On a fait tourner ça pendant des années. Et à force de tourner en spectacle jeune public, on s'est spécialisé dans le spectacle pour tout petit, pour bébé.
Ouais.
C'est un truc qui n'est pas très très couru, on n'est pas nombreux à faire ça. Mais c'est venu de... Comment dirais-je ? On a fait le tour, pour moi, on a fait le tour de la question du jeune public. On a tourné énormément, on a fait des écoles en pagaille. Et à un moment donné, on a dit stop, on l'avait trop fait. On a voulu aller dans quelque chose de plus vrai, de moins routinier. Donc ça a été effectivement le spectacle pour bébé, pour tout petit, qui est un concept plus original, et aussi le spectacle à l'hôpital, puisque depuis maintenant 7 ans, on joue régulièrement dans les hôpitaux, à 2, à 3, dans les chambres,
alors
auprès des enfants.
Je vais te dire une chose, Les spectacles du théâtre en flamme, vos spectacles, c'est jamais j'ai ressenti la moindre routine. Et pourtant, des fois, j'ai vu plusieurs fois le même spectacle.
Quand je parle de routine, c'est dans l'ensemble, tu as programmé nos spectacles alors qu'ils étaient encore en pleine vie.
Mais des fois, je les ai vus aussi dans d'autres.
Voilà. Et même, je pense que tu as souvent été un des premiers à nous programmer quand on faisait une création. Mais ces spectacles, certains, pas tous, mais ces spectacles ont beaucoup tourné. Et à la fin, on continue à jouer.
Mais je tiens à dire parce que vos spectacles, quand même, sont à chaque fois, il y a une chose, et que ça soit pour les spectacles tout public, que ça soit pour les spectacles jeune public ou pour les spéciales bébés où les parents viennent, il y a quand même une chose qui fait l'unité de tout votre travail. C'est toujours comme vous soignez l'accueil, le décorum de vos spectacles où tout compte. Hein, quand on arrive, quand les lumières s'allument, il y a toujours des effets. Moi, je me rappelle c'est la valise de Jacob ou avec le film le film qui passe.
Jacob et la lune.
Jacob et la lune.
C'est la suite.
C'est la suite. À chaque fois, il y a des trouvailles il y a un travail énorme. J'ai l'impression que travailler le texte, la musique, ça, c'est peut-être moindre que tout ce que vous faites autour pour créer une ambiance, quoi, pour créer un...
Après, c'est une question de manière d'être, de personnalité. On est perfectionniste, moi je le suis, des fois trop, beaucoup trop sûrement. Des fois, ça fait passer un peu à côté de l'essentiel. Mais ça, finalement, c'est pas tellement important. Ce qui était important, et surtout dans les créations théâtrales, et notamment jeune public, c'était l'envie de s'amuser, l'envie de continuer. En fait, on est, Daniel et moi, ou Gilles, Melky et moi, enfin les personnes qui avons travaillé sur ce spectacle, on se connaît depuis tout jeune. Et quand on était jeune, on s'amusait, on déconnait ensemble, on faisait les cons tout le temps, on se faisait rire mutuellement pour des bêtises. Et c'est ça qu'on a voulu amener dans le spectacle. C'est ça qu'on a voulu garder et montrer dans nos spectacles. Et que ça. C'est-à-dire que après, si cette chose-là disparaît, eh ben, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Et moi, quand j'ai senti que cette chose-là commençait à s'émousser, parce que quand on a joué un spectacle 300 fois, 350 fois, bon, ben, effectivement, il y a quelque chose qui devient routinier. Pour moi, j'ai dit la substance est en train de disparaître, donc c'est plus la peine. J'étais toujours en général le premier à dire il faut arrêter.
Je voudrais souligner cet aspect-là parce qu'effectivement, dans votre espèce de jardin planté, hein, parce que c'est un peu ça, hein, quand vous faites un spectacle, vous plantez un petit peu votre jardin, votre lieu, quoi. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est l'émotion. Mais moi, depuis 1, 2, 3 comtés, hein, je me rappelle très bien de ce spectacle pour l'avoir vu plusieurs fois. Le jeu des acteurs, jamais autant le jeu ne prenait
le jeu, voilà.
Parce que effectivement, d'ailleurs, je veux dire, quel est le premier besoin d'un enfant, c'est après les besoins fondamentaux, c'est de jouer. Je dirais le deuxième, c'est jouer, et le troisième, c'est jouer encore. Ouais. Donc, et dans vos spectacles, c'est vrai qu'on jouait, les enfants riaient. J'ai jamais vu de l'ennui, hein, dans un spectacle. Et même dans les spectacles ambitieux comme le voyage de Jacob et la lune, qui était un gros spectacle, hein, où il y avait énormément, vous avez pris des fois le risque de faire une histoire dans laquelle on peut éventuellement se perdre pour des petits et tout.
Et ça, c'est finalement propre à Jacob et la Lune, quand même. Ce spectacle est différent des autres.
Et pourtant, j'ai vu sans mot me scotcher tout au long du spectacle parce que vous avez amené des éléments énormes, quoi, ça.
Jacob et la Lune, c'est le dernier spectacle jeune public qu'on ait fait. Jeune public, tout public, on va dire. Et il a une valeur testamentaire un petit peu, c'est-à-dire que on a mis, c'est la somme de tout ce qu'on a fait en fait.
Avec la référence à Chaplin.
Voilà. C'est-à-dire la somme de nos références, des choses qui nous ont toujours émus et fait rire, la somme de notre manière d'être, de ce dont je parlais, c'est-à-dire cette manière de déconner ensemble, de pas se prendre au sérieux en fait. Et dans Jacob et la Lune, si tu t'en rappelles bien, il y a des extraits de Sidi Halifol qu'on a mis en vidéo. Fait. On joue avec nos propres personnages qui sont en vidéo. On s'amuse avec eux.
De l'écran.
Voilà, c'était une manière de décaler tout ça. Et c'est un bilan aussi. Et c'est le dernier qu'on a fait. Du coup, c'est une sorte de pot pourri. Et effectivement, je pense qu'on se perdait un peu dans ce spectacle. Mais finalement, très honnêtement, on l'a fait pour nous-mêmes. Ouais. Ce spectacle, on l'a fait pour nous-mêmes. On l'a fait pour...
Pour donc actuellement, si on vous réclame ce spectacle, il est plus joué par la...
Il est plus opérationnel parce que les décors ont vieilli, parce que...
Et Jacob, et la valise de Jacob ?
Aussi.
Voilà, et de Cydia Livol ?
Aussi. C'est-à-dire tous nos spectacles jeunes publics, c'est-à-dire compris entre les années 80, en gros 90 et 2000, et 2003 par là, pour moi, on a arrêté de les jouer et ils sont morts.
Okay.
On les reprend pas parce que c'est mort.
Okay.
Parce que pour moi là, on peut toujours. Je sais qu'on peut tirer 30 ans sur un spectacle, mais on peut repeindre les décors, on peut rapiécer les costumes, on peut refaire du training d'acteur, mais on peut pas réinventer la flamme. Et pour moi, si la flamme est morte, eh bien,
alors on va écouter
le théâtre.
Enfin. On va écouter, ouais, bah ouais, quand même. Hein. On va écouter, je vois Daniel qui arrive. On va écouter un titre de ton dernier album, et après on reviendra justement sur savoir où vous en êtes maintenant dans le spectacle pour enfants et reparler un petit peu et de Mamao et du nouveau spectacle Plume.
Ok.
Personne sinon le hasard ne me dira jamais ce que tu es devenu aujourd'hui, Guy. Personne sinon le hasard ne saura jamais que cette heure n'était pas la tienne ce lundi. Que cette heure n'était pas la tienne ce lundi. On était deux gamins, flâneurs sans doute sur le chemin de l'école. La Renault a jailli tout droit de l'enfer. Et chaque fois que la vie me ramène à la sortie de ce virage, je vois ton corps danser dans la lumière. Je vois ton corps monter au ralenti dans la lumière. Personne, pas même un livre, ne dira nulle part combien ta peau en ce jour était bénie. Personne, ce type était ivre, ou seulement en retard, ou peut-être son amour était parti. Peut-être que sa blonde était partie. On était deux gamins vivant toujours sur le chemin de l'école. Quand la Renault a disparu au fond de l'enfer. Chaque fois que la vie me ramène à la sortie de ce virage, je vois ton corps danser dans la lumière. Je vois ton corps monter au ralenti dans la lumière. Dans la lumière. Dans la lumière de ce virage. Où y a personne, personne.
Donc, Georges Nounou, qu'on vient d'entendre, donc un extrait, Guy et le hasard, un extrait du dernier album. Alors, Guy et le hasard, c'est, tu peux nous parler un peu de cette chanson ?
Oui, c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie ?
C'est une histoire vraie. C'est un ami à moi, enfin un copain. Quand on était petit, exactement comme je le dis dans la chanson, on allait au collège ensemble, on faisait la route ensemble. Et puis un matin, on était un petit peu en retard, en traversant la route, j'ai vu arriver une bagnole, une R16, à fond. Et lui, il était déjà avancé. Moi non, moi j'étais encore sur le bord. Et j'ai vu la bagnole arriver sur lui à 100 à l'heure, quoi. Et pendant une seconde, enfin pour moi, il était mort. Je l'ai vu sauter. En fait, c'est un mélange d'hallucination et de réalité. C'est-à-dire, je l'ai vu partir en l'air. J'ai vu la bagnole disparaître comme ça. Et puis, je me suis dit, il est mort. Et puis en fait, il était debout sur la route. Il me regardait. Il était passé à quelques centimètres, quoi. Et bon, après, c'est pas ça en soi, mais c'est cette espèce de frontière entre la vie et la mort, cette espèce de fragilité, cette espèce de d'incertitude de l'instant qui était là, que j'ai vu, qui était matérialisé devant moi et qui m'a marqué. Et effectivement, comme je le dis dans la chanson, ça m'arrive très souvent de repasser à cet endroit-là, et chaque fois que je repasse, je revis la scène.
Ah ouais,
c'est ça. C'est une espèce d'hallucination permanente.
Ouais, moi, c'est mon tube de l'album.
C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, cette chanson. Alors, ça me fait plaisir, en fait.
Et donc, on parlait tout à l'heure du spectacle enfant. Et vous en êtes venu, à un moment donné, à cette chose merveilleuse, hein, que j'ai pu vivre, qui est Oh Mamao, un spectacle. Vous faites partie des premiers, hein, avoir fait des spectacles comme ça pour les tout petits, parce que on y accueille les bébés à 6 mois, hein, je crois, avec mmh. les parents. Mmh. Et puis c'était pour une jauge de 25 personnes.
25-30 adultes et enfants.
Voilà, adultes, enfants compris. Et bien sûr, on pouvait se poser la question de savoir comment vous alliez capter des bébés là, pendant 30 minutes. Ouais, moi, je l'ai vu faire. Et donc, je le dis, hein, si un jour vous voyez un spectacle, que ce soit Ploum, de toute façon, quand c'est le théâtre en flamme, il faut y aller les yeux fermés, parce que je sais que vous êtes... On en parlait tout à l'heure pour les grands, hein, où j'ai vu que vous aviez fait des spectacles des fois difficiles, ou finalement, hein, avec Jacob et la Lune, où c'est pas toujours évident le spectacle, mais finalement les gamins, quand ils sont captés, quand ils sont dans l'histoire, et vous, tant que vous vous amusez, effectivement, comme tu le disais, je pense qu'on arrive à faire passer quelque chose. Et là, le spectacle au Mamao, vraiment, c'était un grand moment à la fois d'émotion pour en tant qu'adulte, mais j'ai vu des bébés captés pendant 30 minutes, quoi. Vous avez votre savoir-faire, vous avez ce truc qui fait que c'était quand même extraordinaire, quoi. Après, je voudrais savoir comment ça se poursuit, mais c'est pas important, mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment ça continue de vivre chez les enfants. En tout cas, c'est pas possible qu'il n'en reste rien, quoi. Et nous, adultes, en tout cas, on s'en souvient, quoi. Donc, comment... Bon, ça a duré combien de temps, ce spectacle ?
Au Mamao ? Ouais. On l'a créé en 2005, on le joue encore. Donc, ça fait 4 ans que ça existe.
Vous l'avez tourné jusqu'où, ce spectacle ?
Jusqu'en Corée.
Jusqu'en Corée ?
Jusqu'en Corée du Sud, on est très fiers. En Tunisie aussi, et puis partout en France, en Luxembourg,
Belgique,
voilà. Belgique, non, la frontière, mais
la
pas
frontière,
en Belgique.
Belgique, ouais. Mais pas en Belgique.
Dans le Nord, beaucoup. En Lorraine, partout en France.
Donc, en plus, c'est pas évident, parce qu'il faut des fois le répéter. Vous êtes amené. Moi, je me rappelle quand on l'avait joué, vous l'avez joué deux fois de suite. Parce que la jauge est petite.
Voilà, il y a une petite jauge, donc on fait des spectacles à peu près, des représentations toutes les heures.
Mais ça demande une énergie folle quand même, parce qu'on sait ce que c'est de capter des enfants en 30 minutes, de capter des bébés.
Ça demande beaucoup d'énergie, mais je crois que la spécificité du théâtre en flamme, c'est l'énergie.
Oui, c'est vrai.
On n'a pas beaucoup de choses, mais ça, l'énergie, on l'a.
Donc, il y a eu Oh Mamao, il y a eu... un autre spectacle pour les petits.
Le premier, avec qui s'appelait qui s'appelle toujours Coussin Coussa, sauf que bon, il est plus en catalogue. On n'a pas l'habitude de traîner nos spectacles pendant des dizaines d'années. Hein. On essaye de se renouveler, même si c'est pas pas tous les ans, parce qu'on a ni le budget ni malgré tout. Toutes les idées qui arrivent tous les ans, mais en tout cas au moins tous les 3-4 ans. Donc on a commencé en 2000 avec Coussin Coussa, mais à l'époque on savait pas du tout ce que ça pouvait donner un spectacle bébé. C'était la première fois pour la compagnie. On connaissait les spectacles 3, enfin les primaires quoi, primaire, collège, mais on savait pas s'il y avait du public pour ça, on savait pas s'il y avait des réseaux pour ça. On a essayé parce qu'on en avait envie. Et puis on a vu qu'effectivement il y avait des gens intéressés, il y avait des gens qui avaient envie de voir des choses, qui croyaient au spectacle pour les petits, parce qu'il y en a plein qui croient pas non plus. Et puis le temps a passé et depuis 2000 on se rend compte que maintenant au niveau national et même international, le spectacle pour la toute petite enfance commence à avoir des lettres de noblesse, comme on dit, commence à être reconnu comme un théâtre à part entière, en tout cas un spectacle. Un art à pas, enfin c'est pas l'art, c'est une spécificité, quoi.
Ce qui est bien aussi, c'est les parents qui ont senti l'intérêt d'amener les enfants dans...
Voilà, mais vraiment les parents pour ça, en tout cas les parents quand ils ont des tout petits bébés, ils viennent pour eux, comme il n'y a pas grand chose qui se fait pour eux, que c'est toujours pour les plus grands, que ce soit tout ce qui est loisirs, bon à part les petites promenades ou les jardins d'enfants, donc dès qu'ils voient, ça les interroge et ils ont envie de venir. Et ce qui est intéressant, c'est que les spectacles toute petite enfant s'adresse vraiment aussi aux parents et on se retrouve vraiment dans ce lien parent-bébé et on les amène voir du spectacle vivant et quelquefois et même très souvent les adultes, c'est la première fois qu'ils mettent le pied dans un spectacle vivant.
Ouais, c'est vrai.
Les bébés c'est normal, mais les grands, donc c'est grâce à leur bébé qu'on les amène aussi au spectacle.
C'est merveilleux, quoi. Donc, au Mamao, vous pouvez en raconter, puisque le spectacle tourne encore, donc vous pouvez un petit peu raconter le fil conducteur.
Ben, au Mamao, c'est l'histoire d'un petit poisson savon qui est dans le bain, dans l'eau du bain, dans la baignoire de bébé, et qui s'échappe par le tuyau. Le tuyau de la bonde de fond, quoi, et qui va comme ça découvrir l'eau, qui va d'abord dans la rivière, puis dans le fleuve, puis dans la mer, et qui à la fin échoue sur la plage, où bébé le retrouve et le ramène dans son bain. Donc c'est un peu comme ça le cycle de la vie, quoi. Et on se retrouve avec... C'est une histoire qui est très très simple, hein, mais avec très très chargée en imaginaire et en poésie, quoi. Alors, et ça parle de l'eau surtout, c'est un spectacle sur l'eau qui parle de l'eau dans tous ses états.
Donc, alors c'est assez rigolo parce que vous avez plein vous manipulez des petits instruments pendant le spectacle, vous donnez aux enfants, hein, il y a des petits objets qu'on leur manipule.
Non, c'est qu'il y a des petits galets. Il y a des petits galets sur le sol parce qu'on est dans un aquarium géant. Et le sol, donc le sable, est symbolisé par du tissu. Et par-dessus, on a des petits galets. Alors les bébés aiment bien se faire les dents avec les galets, les mâchouiller, baver dessus, les attraper. Voilà.
En tout cas, un bon moment à vivre, même de voir les parents avec leur bébé. Je crois que les parents eux-mêmes n'en reviennent pas. Hein, comment ça ?
Ben oui, parce qu'ils sont dans la contemplation totale. Ils découvrent leur enfant autrement qu'à travers le regard qu'ils ont entre eux, précisément. Ils découvrent leur enfant, regarder les autres.
Cédric,
toi,
tu as déjà vu ce type de spectacle ?
Non, je ne connais pas du tout ce genre de spectacle. Et du coup, ça donne très envie de découvrir.
Toi qui es comédien, le spectacle jeune public, c'est une chose à laquelle vous avez pensé de...
Non, c'est quelque chose, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. On verra, mais en tout cas, moi personnellement, je fais mes premiers pas de clown à l'hôpital. Alors, tu parlais de musique à l'hôpital tout à l'heure, donc voilà. Non, on n'y est pas encore, non.
Donc, Au Mamao, c'est aussi une suite de chansons, et dont vous en avez tiré un album. Hein, vous avez tiré un album de ce spectacle, tu en parlais tout à l'heure. Hein, pour toi, il compte dans ta discographie autant que le reste. Et en plus, ça marche bien. Oui. Tu me disais, ça marche assez bien.
Oui, ça marche. Voilà. On en vend, mais bon, c'est jamais ça l'essentiel.
Ouais,
l'essentiel, c'est que ça existe.
Hein. Ouais. Mais bon... Quand même, parce que il faut bien quand même qu'à un moment donné, ça puisse aussi marcher pour continuer de faire des choses. Et donc, tu as amené ta guitare et tu vas nous faire plusieurs titres, mais tu vas nous faire un extrait d'Au Mamao.
poisson bulle, poisson rouge, barbotte dans l'eau de mon bain. Poisson bulle, poisson bouge, plonge et me glisse entre les mains. Poisson bulle, poisson bouge, monte et descend comme un yo-yo. Tout en savon, tout en bulle, plonge et s'en va dans le tuyau. Si j'étais un poisson bulle, un poisson de savon dans le tuyau, je m'en irais sous la lune, visiter le monde au fil de l'eau.
Visiter le monde au fil de l'eau.
Visiter le monde au fil de l'eau.
Bateau sur l'eau, capitaine, capitaine, bateau sur l'eau, guide les oiseaux.
Les goélands, capitaine, capitaine, les goélands, suivent les bateaux. Sur l'eau, capitaine, capitaine, bateau sur l'eau, guide les oiseaux. Les océans, capitaine, capitaine, les océans finiront bientôt. Capitaine, capitaine, bateau sur l'eau, guide les oiseaux. Les océans, capitaine, capitaine, les océans finiront bientôt.
Je m'inquiétais de mon siège qui couinait comme ça. Ouais, c'est merveilleux, Cédric. Ah,
c'est très, très beau.
T'as vu, de se retrouver au milieu comme ça, c'est extraordinaire. C'est et on imagine un spectateur qui aurait la chance de pouvoir venir sur scène avec les comédiens, parce que bon, c'est une chose d'être en phase dans le spectacle, mais alors d'être au milieu, ah oui, ben voilà, tout à fait. Et tu imagines, Cédric, l'aquarium, leur concept, et ben c'est ça en fait, c'est ce qu'on vient de vivre là, c'est ça en fait, avec les enfants, c'est au milieu, c'est parce que forcément la proximité dans l'aquarium, elle est de fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Mmh. Et ça a été conçu pour accueillir au maximum 25-30 personnes, avec les bébés et parents compris. Donc forcément, ce qu'on vient de vivre là, on le vit comme ça dans cet aquarium, parce que c'est une bulle. Alors ce spectacle tourne toujours. Donc votre nouvelle actualité, c'est toujours dans les spectacles enfants, c'est Ploum. Alors c'est le fil conducteur de Ploum.
Alors Ploum, c'est l'histoire d'un bébé pingouin. En fait, Ploum, c'est lui, hein, il s'appelle Ploum. Il est dans son œuf, bien au chaud. Et puis un beau jour, il faut bien qu'il naisse, hein, comme tous les bébés, il faut qu'il arrive au monde. Donc c'est l'histoire de ce bébé pingouin qui sort de son œuf et qui cherche sa maman. Parce qu'il ne la trouve pas, elle n'est pas là, elle n'est pas autour de lui. Alors il la cherche et il parcourt la banquise. Il voyage, il fait tout le tour du cercle polaire, il rencontre tous les animaux de la banquise. Il rencontre l'ours polaire, l'albatros, le morse. Et chaque fois, il croit que c'est sa maman. Comme il n'a personne pour le regarder, il ne sait pas qui il est. Et puis, à la fin, il faut venir voir le spectacle.
Alors, n'oublions pas qu'on est en période de vacances et que le spectacle, en ce moment, on le joue au Théâtre de la Vista.
Voilà, il se joue au Théâtre de la Vista jusqu'au 8 novembre, tous les jours à 10h et 16h. Et les réservations sont fortement conseillées, puisque pareil, c'est pareil que pour Omamao, les jauges sont limitées.
Alors donc, si vous entendez parler, si vous écoutez l'émission, si vous voulez en parler à des gens que vous connaissez, qui ont des bébés, et que vous pensez que ce serait une bonne idée qu'ils les amènent au spectacle, je vous conseille donc d'aller voir Plume, le spectacle. C'est un petit peu, donc tu disais tout à l'heure, la trilogie, donc c'est un peu la suite,
oui,
un petit peu
trilogie,
de Omamao.
C'est la trilogie, il y a Coussin Coussa, et puis il y a Omamao, et puis maintenant il y a Plume.
Et donc, c'est au Théâtre de la Vista, donc 42 rue Adam de Craponne, à Montpellier, donc 04 67 58 90 90. Je répète, le temps que vous alliez chercher le stylo, le papier pour noter, 04 67 58 90 90. Et sinon, vous allez sur Google, vous faites Théâtre de la Vista et vous trouverez toutes les informations concernant ce théâtre. Comme si vous voulez avoir des informations sur les spectacles de Georges et Daniel, vous faites... alors, j'ai essayé, il y a mille manières de rentrer. Si on fait Daniel Temstedt, si on fait Georges Nounou, si on fait Omamao, si on fait Créatef, Théâtre en Flamme, on arrive toujours à trouver des informations, toutes les informations qu'on veut sur vous. Voilà, donc, carrément. Omamao, le Plume, vous aurez les spectacles, vous aurez les contacts. Mais on donnera quand même des contacts, hein, on donnera le contact de la compagnie.
De la compagnie, oui.
On verra ça un petit peu plus tard, mais on pensera donner quand même les contacts de la compagnie. Donc, pareil, de la création de la chanson dans Plume.
Oui, c'est un spectacle musical. De toute façon, c'est notre spécificité.
C'est votre,
C'est toujours chanson. C'est Georges qui écrit les textes et les musiques. Et on est toujours entouré plus ou moins de la même équipe. C'est-à-dire que le concept scénographique a été fabriqué par Nicolas Gall, qui a fait aussi l'aquarium de Omamao. Et par contre, on a une nouvelle personne au costume, quoi, qui est Ghislain Vilsanti. Et on a en plus de la projection vidéo dans Plume, qui a été réalisée par Cédric de Vavrechin.
Et alors cette fois-ci, le décorum, c'est ce truc qui est aussi un peu votre spécialité, c'est quoi?
Eh bien, à ton avis.
un bout de banquise?
Presque.
T'es pas loin.
Allez, racontez.
Un igloo.
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
En fait, tout se passe dans l'igloo, avec un œuf géant au milieu.
Marc, en plus, c'est écrit un baby show dans un
igloo. Dans un igloo, voilà. Alors, on est tous dans un igloo.
Et combien de personnes?
Alors, on en rentre un peu plus que dans le bocal. On en rentre à peu près 40.
40. Donc, voilà. J'imagine, je voudrais bien le voir, parce que je ne l'ai pas encore vu, cet igloo, mais j'espère que je vais pouvoir y aller le voir. Parce
c'est
que
un igloo
j'imagine,
géant.
Vous avez encore dû travailler, il y a encore des heures de travail.
Non, mais il est très, très beau, on est très
voilà,
fiers de cet
igloo. C'est une structure toute blanche, très lumineuse, avec des lumières intégrées dedans.
Ouais.
Donc, il se regarde dans le noir.
Ça, je te fais confiance.
Il y a des énormes glaçons
C'est une espèce d'île dans le noir.
Voilà, puis il y a des énormes glaçons qui servent de banc et qui ont été fabriqués par Philippe Doublemar. Donc en fait, derrière Plume, on est deux à l'interprétation, mais il y a une sacrée équipe.
Il y a une équipe, ouais.
Donc Plume, il y a combien de chansons dedans?
Elles sont courtes, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup,
17,
ouais.
Je crois.
Voilà. Donc est-ce que ça devrait aussi donner lieu à un album comme
ça
pour,
va.
Ça va
oui,
donner lieu
oui,
à un album.
Bien sûr, ouais. Oui, qui sera distribué par DJP, comme Omamao, voilà, pour l'année 2010.
2010. Donc, en attendant, on va voir le spectacle. Alors, oui. Vous avez aussi dans vos spectacles, y a, même dans les spectacles adultes, il y avait dans l'ensemble du jeu, il y avait souvent quelque chose d'interactif, une chanson, un refrain qu'on reprenait dans Mao aussi. D'ailleurs, celle que vous avez chantée, c'est un petit peu le leitmotiv. Et dans Plume, pareil, il y a.
Oui, aussi. Il y a une chanson, il y a toujours un tube.
Il y a toujours un tube.
Bien on perd pas le nord, si tu veux.
Vous y faites même pas attention, non, ça vient tout seul, ça ou...
Oui, non, ça vient un peu tout seul.
Ouais.
C'est pas au départ,
ça vient un peu tout seul dans. Enfin, oui et non. Disons que ça, il y a forcément besoin dans la bande originale de, ouais, d'un spectacle pour enfants d'un moment de relance.
Ouais.
Donc ce moment de relance en général, ça donne lieu à une chanson qui se retient, qui est rythmée, qui est marquante, mmh, et c'est ça qui fait Alibaba, dans Sidi Ali, qui fait patiner dans Plume. Enfin, effectivement, ça donne lieu en général à un titre qui se retient, quoi. Mais on fait pas exprès, en fait. C'est comme ça.
Ouais. Il y a toujours un tube, voilà.
Bah, tant mieux. Ouais, c'est vrai qu'aussi, il y a des choses comme ça qui marquent l'imaginaire. On va écouter, alors tiens, ça va peut-être te faire plaisir. C'est Hugo Frey qui... Tu dois savoir qu'Hugo Frey est lui aussi un fan de la première heure de Bob Dylan. Il le raconte dans l'introduction de son album qui vient de sortir, là, où en duo, il reprend des chansons de Dylan. Et puis la première chanson, en fait, c'est pas vraiment une chanson, c'est il raconte sa rencontre avec Dylan depuis les années 60 jusqu'à 2008. Et il raconte tout ça, 40 ans de rencontre comme ça. Et puis, chaque chanson est reprise en duo, lui avec un autre, et celle qu'on va écouter est reprise. Alors, c'est une chanson d'ailleurs que j'avais déjà entendue par Graham Holloway, qui l'avait aussi adaptée en français. Ça s'appelle L'homme dota les animaux, l'homme dota d'un nom chaque animal.
Ah oui.
Man
gave a name to every animal.
Voilà. Graham Holloway, tu en avais fait déjà une adaptation, et cette fois-ci, c'est Hugo Frey qui la chante avec Alain Souchon.
Mais attendez.
Voilà, donc je viens d'écouter Hugo Frey. Hein, pareil, c'était nos amours de d'adolescence. On s'est un petit peu esquinté les doigts sur nos premiers accords de guitare avec bien sûr, tu disais, il y a Dylan, mais Hugo Frey fait partie de ces gens qui, malgré même ce qu'on peut en penser dans la variété française et tout ça, fait partie des gens qu'on a repris sur nos guitares étant jeunes.
Oui, c'est quelqu'un qui a marqué. En tout cas, par rapport à Dylan, Hugo Frey a un double mérite quand même, c'est que premièrement, il a fait connaître Dylan au public français, ouais. Ce qui n'est pas rien. Et deuxièmement, il a le mérite de l'honnêteté, c'est-à-dire qu'il a reconnu, après avoir fait plusieurs adaptations, enfin publié plusieurs adaptations de chansons de Dylan, dont les paroles avaient été adaptées par Pierre Delanoë, il a reconnu que si Dylan avait pu comprendre les paroles des adaptations en français de Pierre Delanoë, il n'aurait pas donné les droits sur les chansons.
Il a dit
je
ça.
Trouve que c'est bien.
C'est honnête, ouais. Ouais, il a dit ça. Parce que dans l'album, là, il y a pas mal de traductions qui sont Hugo Frey, Pierre Delanoë. Il y en a certaines, c'est que Hugo Frey.
C'est drôle d'ailleurs. J'ai bien à l'esprit beaucoup d'adaptations de Hugo Frey, par Hugo Frey de chansons de Bob Dylan, dont souvent, effectivement, il n'a pas fait lui-même les paroles. Et c'est étrange de voir à quel point les paroles de Dylan ont été aseptisées dans ces adaptations. Parce que Dylan était quand même quelqu'un de très mordant, quelqu'un qui était très corrosif dans ses propos, et Hugo Frey en a fait des versions grand public quand même.
Ouais.
Voilà. Mais bon, il y avait des gens comme Pierre Delanoë derrière, qui étaient des professionnels de la question, des professionnels du grand public, donc ils ont fait leur travail.
Et alors moi, voilà. Je me rappelle, et je vais quand même t'étonner, tu sais, que la première chanson que j'ai apprise à l'école, enfin peut-être pas la première, parce que la toute première, c'était encore en primaire, ça devait être un truc de Brassens, le petit cheval blanc avec un poème,
Paul Fort
et puis mais en sixième, la première chanson, et ça m'a vraiment, et la première fois que j'ai entendu le nom de Dylan, c'était en sixième, et c'était un prof qui nous a fait apprendre la version française de Blowing in the Wind, écoute dans le vent, écoute la réponse est dans le vent, et c'était l'adaptation de Richard Anthony.
Oui.
C'était une adaptation de Richard Anthony. Donc, la première fois que j'ai découvert Dylan, c'était. Ah ouais. Et donc, on a appris. Et vraiment, je rentrais chez moi et il nous avait appris qu'une partie de la chanson. Et bien sûr, chez moi, j'ai voulu absolument trouver le reste et tout ça. Et je me suis procuré le disque et tout. Et j'ai appris la chanson entière. Et j'étais fier de pouvoir dire à mon prof que je connaissais la chanson. Il nous l'a fait. Bien sûr, on l'a rechanté et tout ça. Mais j'étais un des rares à l'avoir appris entière.
Même si je m'y attendais un peu, je dois dire que j'ai eu une certaine émotion quand même au concert de Joan Baez. Au moment où elle a attaqué Blow in the Wind, ouais. C'était évident qu'elle allait le faire. Hein. Mais quand les gens entendent Blow in the Wind,
oui,
tout public confondu, il y a un frisson qui passe et puis on le sent, c'est tangible, c'est comme ça. Ça fait quand même, pas loin de 50 ans que cette chanson existe et tout le monde ne connaît pas forcément Dylan. Elle est dans le patrimoine génétique humain.
Ouais, je crois.
Elle est inscrite maintenant.
Elle est inscrite,
profondément, quoi.
Et à ce qui est étonnant, d'ailleurs, moi, ce qui m'a épaté, c'est que qu'elle soit avec tous ses musiciens ou qu'elle vienne toute seule avec sa guitare, même a cappella par moment, 20 000 personnes, on n'entendait pas une mouche voler, quoi. On n'entendait que la guitare et la voix de Joan Baez, quoi. C'était incroyable, quoi. Il y avait un silence de messe, quoi.
C'était un beau cadeau mutuel. C'est-à-dire, c'est vrai, elle s'est donnée. Elle a dit, d'ailleurs, à la fin, elle a dit « J'ai passé une soirée magnifique. »
Bonne soirée,
tout,
ouais.
Bon, voilà. Et puis, je trouve qu'elle a eu un super public.
Ah ouais. Ah ouais.
Vraiment, bon, ça attentif, aussi, c'est un cadeau, parce que, attentif.
Les refrains.
Moins de chansons.
C'était vraiment un bon moment. Ouais. On reviendra régulièrement, comme ça, sur le concert de Joan Baez. Donc, toi, quand même... Dylan, tu as grandi avec du Dylan, quoi.
Oui, puisque je connais Dylan depuis à peu près l'âge de 15 ans. Ouais. Et comme j'ai commencé à grandir à peu près vers 15 ans, on peut dire ça, oui.
Donc, bien sûr, quand tu as mis les doigts sur une guitare, il fallait qu'il y ait du Dylan qui sorte.
Oui, ça a été très tôt.
Et je crois que maintenant, tu vas pouvoir nous en faire une démonstration.
Je ne vais pas faire une démonstration. Je vais en chanter une qui n'est pas une chanson connue de Dylan, parce que c'est vrai qu'en général, on reprend les standards. Mais c'est une chanson que j'ai trouvée sur un pirate officiel de Dylan, qui est une chanson qui parle d'un bluesman des années 20, je crois, qui s'appelle Blind Willie McTell, qui était aveugle, donc blind. et qui est surtout, cette chanson est surtout une des plus belles chansons qui a été écrite par Dylan ou par quelqu'un d'autre sur la question de l'esclavage et sur la question du peuple noir aux États-Unis. Blind Willie McTell. I seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled to East Texas, where many matches fell, and I know that no one can play the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard the hood owls singing as they were taking down the dams. The stars above and the barren trees where he's only audience. Them charcoal gypsy maidens thickens to their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. I see the big plantations burning, I hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, and hear the ghost of slavery sheep. I didn't hear that tribe's mourning, I can hear the undertaker's bell, yet nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. There's a woman by the river with some fun young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg the whiskey in his hand. There's a charcoal I can hear the Zeebo yell, and I know that no one can seem to lose like Blind Willie McTell. Well, God is in his heaven, and we all want what's his. Power and greed, corruptible seed, seem the only thing there is. I'm a guest and not the window of the St. James Hotel, and I know that no one can see the blue like Blind Willie McTell. I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell.
Cédric. Ouf. C'est vraiment bien d'être là.
Ah, c'est génial.
Donc voilà, j'espère que tout le monde en profite aussi parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est une chanson rare. C'est pas une chanson qu'on trouve dans les albums studio originaux.
C'est une chanson qui a été écrite et enregistrée avec Marc Knopfler à la guitare, en duo. Dylan est au piano et Knopfler est à la guitare. Et c'était prévu pour sortir sur un album qui s'appelle Infidels, qui date de 82, je crois, et il n'a pas mise. Oui. Alors, je pense qu'il n'a pas mise parce qu'elle dénotait par rapport au reste de l'album. Elle n'était pas dans le ton du reste de l'album. Mais par contre, moi, je la chante très mal, en plus avec une guitare extrêmement désaccordée, je ne m'étais pas aperçu. Bon, mais il la chante avec une voix...
Et tu la chantes avec tellement d'énergie.
Il met une telle émotion que pour moi, elle est très au-dessus du reste de l'album. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'y est pas dessus.
Il y a Bruno, je sais que derrière, il y a Bruno à la console. Il a pris beaucoup de plaisir aussi. Il faisait des petits signes pendant le spectacle et je t'assure que ça ne nous a pas gêné le reste parce que toi aussi, tu mets beaucoup d'émotions, d'énergie.
Je ne rends pas compte de ce que c'est vraiment.
Il est modeste. Hein. Donc, et vous avez une chanson que vous faites ensemble en dehors des spectacles d'enfants? Est-ce qu'il y a des chansons que vous faites ensemble? Parce que dans le spectacle que j'ai vu, tu chantes toi aussi, tu mets beaucoup d'énergie.
Et... Oui, à part les spectacles bébés, on est ensemble sur le trio Brassens irlandais. Donc on reprend des chansons de Brassens que tu connais aussi, voilà. Et puis après, moi je suis souvent en chœur en fait. Il y a que sur les spectacles bébés où je suis en lead.
Et là, comme ça serait beaucoup demandé dans la soirée, là, de faire une chanson, une des chansons que vous faites ensemble.
Laquelle ?
Celle que vous choisissez. Celle que vous choisissez. Je vous laisse réfléchir. On va passer un titre, puisque je vous prends comme ça au dépourvu. Donc, on va passer un titre de l'album qui s'appelle « Les clones du bord des routes ». Un morceau que j'aime bien. J'ai choisi les trois morceaux que je préférais. Après, j'aime les autres, mais voilà. Il y avait Guy, et puis après, il y a celui-là.
On est toujours un peu dans l'hallucination avec. Ceci dit, cet album s'appelle Demi-Sommeil, c'est pas pour rien. j'aime beaucoup, Les Clones, c'est une de mes chansons fétiches sur cet album. C'est effectivement quelque chose qui se passe entre 2h et 4h du matin, sur la route, au volant. C'est ces fameuses silhouettes noires qu'on voit là où il y a eu des morts, pour nous dire d'aller mourir plus loin, que sinon ça fait des ordres. Et effectivement, à force de. La fatigue aidant, à force de voir ces silhouettes, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'anime. D'un côté, il y a le côté hypnotique de ces silhouettes qui se répètent. Et en même temps, je réalise qu'il se passe quelque chose autour de moi, devant moi, sur la route, sur un parking. Je vois une fille qui se fait arrêter par une brigade volante et tout, un truc très violent qui se passe très vite et tout. Et puis, le temps de le voir, c'est fini. Et puis, le jour se lève. Et puis voilà, c'est toujours l'hallucination.
Front sanguinolent qui tombe à moitié, habit noir de la tête aux pieds, fuyant l'œil des vacanciers sur le côté. Debout dans le trou des essuie-glaces, au revers d'un camion qui trace, entre talus et caillasse, ils vont sur place. Puis les gouttes, le rush du mois d'août, les clones du bord des routes, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Vapeur de gazole au petit matin, silhouette au regard éteint, flotte dans l'air incertain, royal dédain. Au loin la rumeur, les foules du mondial, elles remontent sur la capitale, laissant la mort qui s'étale. Occipital, les stars du foot, l'odeur du mazout, les clones du bord des routes, tout ça les broute. copine, je roule mais trop vite. Elle me voit se tourner mais vite. Gyrophare, signaux qui vit. Elle qui s'active. Balai de portière autour de la blonde. Elle qui grimpe et moto qui gronde. Les sirènes qui se confondent. Où va ce monde? Les flics en bourse, le flingue dans la soute, les clones du bord des routes. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? La pluie, les gouttes, mes affres et mes doutes, les clones du bord des routes. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Les filles que l'on shoot, les clones du bord des routes, où ça les broute. Front sanguinolent qui tombe à moitié. Habit noir de la tête aux pieds, solitaire ou aligné. Sur le côté,
toi Daniel, tes références en matière de musique, c'était quoi, en matière de chansons? Quand t'as rencontré Georges pour créer les premiers spectacles?
Bah disons que c'est Georges qui m'a fait découvrir Dylan, Brassens. C'est vrai que je n'écoutais pas du tout. Moi, ce que j'écoute, c'est très varié. En fait, j'aime bien la chanson française. J'adore Souchon. C'est mon maître, on va dire. Texte et musique. J'aimais beaucoup Cabrel, mais j'étais très déçue sur ses derniers albums. Sauf que
pourtant,
le
dernier, son
dernier, il s'est un peu rattrapé.
Ah ouais, vraiment bien.
Voilà. Et voilà, après, moi, ce que j'aime bien le rock, j'aime bien ACDC, j'aime bien les musiques un peu électroniques. J'aime bien R, j'aime bien à l'époque, comment il s'appelait, Daft Punk, ouais. Maintenant non, voilà, ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup les chansons, enfin, j'aime beaucoup les textes. Je m'attache plus, en fait, quand j'écoute de la musique, je m'attache beaucoup aux textes. Et donc, j'aime bien les chanteurs à texte. J'écoute un petit peu de tout. Puis, j'aime bien la musique klezmer aussi. J'écoute pas mal de musique klezmer. Voilà. J'ai pas quelque chose de très, très.
Défini.
J'aime un peu tout.
Navi, tu vas vagabonde.
Je suis pas musicienne, du tout.
Alors, quand tu as connu Georges pour créer vos premiers spectacles, toi, ton univers, c'était plutôt le théâtre à ce moment-là.
Voilà.
C'était plutôt comédienne.
Suis comédienne de formation.
Et tu as chanté, c'est avec Georges que tu as commencé à chanter.
C'est avec Georges que j'ai commencé à chanter, et puis c'est avec sa sœur que j'ai pris des cours de chant.
Voilà. Ah oui, Marie-Paul, bien sûr,
faire Marie-Paul. De famille.
Et des cours de solfège. Voilà. Mais oui, au départ, c'était vraiment une formation très classique de comédienne.
Tu as marqué Marie-Paul, parce que je sais que ma fille, elle a eu l'occasion de travailler avec Marie-Paul.
Ouais.
Et elle en a un souvenir, quoi, un bon souvenir, parce qu'elle est une passionnée, Marie-Paul. Mmh. Et c'est quelqu'un qui transmet énormément. Quoi.
Incontournable sur Montpellier.
Ah oui.
Toute catégorie.
Tout le groupe, comment elle s'appelle, au conservatoire son nom me reviendra.
Claire Garonne,
voilà, c'est le nom que je cherchais. Claire Garonne, Marie-Paul, Nounou, Pierre Barbu, il y a tout un groupe comme ça qui est un peu incontournable.
Mais bon, le particularisme de Marie-Paul, c'est justement d'être sortie de cet univers de l'apprentissage, du conservatoire, pour défendre la musique baroque.
La grande spécialiste de la musique. J'en parlais tout à l'heure. Avant que tu arrives, je disais, Georges, c'est le frère d'une personne qui est la grande spécialiste de la musique baroque à Montpellier. Quoi. Et c'est vrai que j'ai assisté à un de ses concerts pédagogiques où elle raconte le baroque. Quoi. Parce que c'est comme ça, elle joue, mais en fait, elle raconte la musique baroque. Et effectivement, on découvre des trucs. On découvre même qu'on connaît beaucoup de choses, mais bon, voilà, on a perdu le fil des racines, quoi, et elle remet tout ça en place, quoi.
Et... C'est quelqu'un qui c'est une grande musicienne, et puis c'est quelqu'un qui sait très bien transmettre,
ouais.
Qui a beaucoup d'humour, bien, qui sait très bien décaler les choses.
Complètement, voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, elle laisse pas indifférent. Je veux dire, faut vraiment le voir. Si un jour vous avez l'occasion d'assister à un de ses concerts, soit un concert pédagogique, peu importe, Marie-Paul Nounou, il faut y aller, quoi. Donc donc toi tu as travaillé avec Marie-Paul pour le chant.
Voilà.
Et puis toi ton univers au départ c'était plutôt donc la musique et c'est plutôt le contraire, c'est Daniel qui t'a amené les bases du théâtre.
Exactement, c'est-à-dire c'est des parcours exactement convergents
comme ça. Ouais.
C'est-à-dire elle venant du théâtre, moi de la musique, on a travaillé ensemble, on a monté la compagnie ensemble et je l'ai initié à la musique, elle m'a initié au théâtre. Voilà. Après chacun en a pris ce qu'il a voulu, selon son ressenti. C'est-à-dire moi à mon sens, Daniel est devenu une chanteuse. Moi je suis jamais devenu comédien.
J'aime bien
faire la mise au point là-dessus. C'est-à-dire, dans tout ce que je fais au théâtre, ça ne passe que par la musique. C'est-à-dire tous les personnages que je peux tenir dans tous les spectacles du théâtre en flamme passent toujours par le support musical. Sans ça, je suis totalement moins capable de tenir la scène en tant que comédien uniquement. Il me faut le support musical.
Le musicien, c'est aussi un acteur. Il y a un jeu d'acteur forcément dans le musicien.
C'est une question un peu compliquée. Ça se résout pas en deux équations.
En tout cas, laisse-nous avoir le regard extérieur. Et moi, quand je vois, d'abord, je vois une complicité inouïe entre vous. Hein. Entre vous, c'est évident, mais aussi, tu parlais du jeu tout à l'heure et ça se ressent très bien comme vous jouez quand il y a. Parce que des fois, il n'y a pas que vous deux dans vos spectacles. Il y a souvent des autres personnages, sauf dans le spectacle des petits. Hein,
voilà.
Vous êtes que tous les deux. Mais vous avez souvent des amis comédiens qui vous rejoignent. Mais en tout cas, ton jeu, c'est un vrai jeu d'acteur. Moi, je le dis parce que je le ressens comme ça. Quoi. C'est un jeu d'acteur qui est d'acteur musicien parce que dans tous vos spectacles, de toute façon, c'est aussi ce qui fait la spécificité de vos airs. C'est des contes musicaux. Oui. Et donc, on les ressent comme tels et ils sont réussis comme tels. Quoi. Avec effectivement un travail quand même d'acteur et donc parce que ça serait que la musique mais cette manière que tu as de t'adresser aussi de déclamer etc de jouer les personnages c'est forcément un vrai jeu d'acteur je pense et que oui. Toi tu vas pas dire le contraire Daniel
mais même dans la laborieuse entreprise qui est une pièce de théâtre à la base qu'on a quand même transformée en spectacle musico-théâtral. Je trouve mon rythme sur la musique,
bien sûr,
à partir de la musique.
Oui, c'est parce que n'importe quel acteur peut trouver son rythme sur quelque chose.
Exactement.
Il a besoin de sa béquille.
Mais moi, j'ai besoin du
support musical. C'est du travail d'acteur de toute façon.
Parce qu'après, quand tu t'adresses dans le spectacle, dans tes personnages, quand tu t'adresses aux enfants, je veux dire, forcément, là, il y a quelque chose, il y a une présence et tout ça qui fait que, effectivement, tu es dans la peau d'un véritable acteur. Quoi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, on va vous écouter. Ou on écoute Dylan d'abord ou
comme
vous
tu
écoute...
veux.
Allez, on écoute Dylan et puis après vous nous faites une chanson extraite d'un des albums que vous avez fait aussi ensemble, qui était
Brassens
Irlandais. Alors on écoute d'abord Dylan parce que c'est le dernier album de Dylan que je crois que tu connais pas encore.
Non, que j'ai pas écouté encore.
Voilà, allez, on écoute.
Talk about me, baby, if you must. Throw out the dirt, pile on the dust. I'd do the same thing if I could. You know what they say? They say it's all good. All good. It's all good. Big politician. Telling lies. Restaurant kitchen all full of flies. Don't make a bit of difference. Don't see why it should. But it's alright. Cause it's all good. It's all good. It's all good.
wives are leaving their husbands. They're beginning to roam. They leave the party and they never get home. I wouldn't change it, even if I could. You know what they say, man. It's all good. It's all good. All good. They tear you down. A teacup of water is enough to drown. You ought to know, if they could, they would. Whatever's going down, it's all good. All good. So it's all good. People on the land, some of them so sick they can hardly stand. Everybody would move away if they could. It's hard to believe, but it's all good. Yeah. Everywhere you look, there's my misery. Come along with me, babe, I wish you would. You know what I'm saying? It's all good. All good. I said it's all good. All killer stalking the town. Cop eyes blinking, something bad going down. Buildings are crumbling in the neighborhood, but there's nothing to worry about, 'cause it's all good. It's all good. I say it's all good. In your face. This time tomorrow, I'll be rolling in your place. I wouldn't change a thing, even if I could. You know what they say. They say it's all good. It's all good. Oh.
Voilà, donc Dylan, hein, tu disais, hein, t'adores cette voix qu'il a maintenant.
Oui, j'aime sa voix de, j'aime sa voix de vieux, en fait.
Ouais. Ça fait un moment, hein, qu'il traîne cette,
oui,
voix.
Bah, ouais, ça doit faire 15 ans maintenant. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, il a nettement perdu son registre, il a perdu ses aigus et tout. Donc il a perdu ce caractère de qu'il avait avant. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il est beaucoup plus proche du blues maintenant, vocalement.
Ouais, complètement,
et moi, je trouve que ça lui va très bien.
Il y a un côté Zydeco un peu, hein, de musique cajun. Un peu dans cet album.
Oui, et puis il est proche de ça, il avait déjà fait des choses dans ce sens-là.
Donc voilà, on va écouter. Alors cette fois-ci, vous avez adapté un album qui s'appelle Brassens l'Irlandais, adapté un album complet de chansons de Brassens à la mode folk irlandaise.
Oui, voilà, c'est ça. On a fait une sorte de medley entre des chansons connues et des chansons moins connues. et on les a mélangés avec des bouts de trad irlandais. On s'y est mis avec Didier Franco, le violoniste, et ça a été très ludique. C'était un couplet toi, un couplet moi, et puis voilà.
Et alors, ça. Donc, il y a un poète qui s'appelle Paul Faure et qui peut-être serait passé plus inaperçu si Brassens l'avait pas remis sorti comme ça de.
C'est un poète super important, Paul Faure, ouais. Dans le sens où justement, c'est un poète qu'on a toujours appris à l'école. Moi, j'ai appris Paul Faure, ouais, à l'école. Ouais. Et c'est un poète qu'on a toujours sur qui on s'est toujours mépris un peu. C'est-à-dire, c'est des textes qui ont l'air un peu de textes pour enfants, de textes, ouais, assez gentils. Et c'est toujours des textes très profonds au niveau du sens. Le Petit Cheval Blanc, ouais, notamment, que Brassens,
voilà, premier texte adapté d'une chanson
qu'on a appris à l'école, que j'ai appris à l'école
moi aussi, ouais,
qui était quand même primaire, un pamphlet, ouais, antimilitariste très fort. Fait, qui parlait, ouais, de la guerre de 14. Mais je me demande si on ne l'a pas dit dans la précédente émission il y a un an, ça.
Peut-être.
Il faudrait quand même pas se répéter d'une année à l'autre.
Peut-être. Mais bon, on n'essaiera pas de le redire la prochaine. Mais on reparlera encore de Paul Faure, peut-être.
Ouais,
en tout cas, vous avez adapté La Marine, donc, parce que c'est quand même Brassens qui a fait connaître ce texte, hein, et oui, qui certainement serait resté un petit peu dans l'ombre si Brassens ne l'avait pas chanté. Et il en a fait une très très belle chanson qui marque les esprits, et vous l'avez repris en version folk.
On les retrouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est la sœur de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nous baiser le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les nénés et les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps plus de trois fois dans un seul jour.
Content,
pas content,
content.
Il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi, et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense même dans l'amour. On pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est la sœur de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste mais on devine, ça sera pas le paradis. On aura posé des péchés, faire bon Dieu la pigeotant et le bourré de tous nos péchés. Ça ne sera pas ça, et pourtant toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les trouve en raccourci dans nos petits amours d'un jour.
Ça, j'ai pas compris.
Dans nos petits amours d'un jour.
Au revoir sur... Donc je rappelle que Plume, le nouveau spectacle du Théâtre en Flamme, joué par Daniel Temsted et Georges Nounou, se joue encore tout le mois d'octobre, 25, 26, 28, 29, 30, 31 octobre. Les premiers 8, 3, 4, 7 et... J'ai dit quoi ? 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 novembre. Voilà, donc toutes les vacances au Théâtre de la Vista. Donc ça se joue à 10h et à 16h, deux séances par jour. Vous ne pouvez pas manquer Plume, c'est un spectacle pour les tout-petits. Vous pouvez y aller, les parents, vous y allez avec les enfants à partir de 6 mois. C'est ça, de 6 mois à...
À 5 ans.
À 5 ans. Donc voilà, c'est un spectacle pour accueillir, les places sont limitées.
Voilà, la jauge est limitée, donc il vaut mieux réserver et téléphoner au Théâtre de la Vista.
Alors pour réserver vos places dans l'igloo, donc vous téléphonez au Théâtre de la Vista au 04 67 58 90 90. Le Théâtre de la Vista, 42 Adam de Craponne à Montpellier, c'est pas loin du quartier Figuerolles.
Et, puisqu'on en est à parler de la programmation de la Vista, on peut aussi signaler que la dernière semaine, on joue en doublon avec un spectacle pour adultes qui s'appelle Gualicho, avec une amie à nous, Charo Beltran, et Katia Poussa, une danseuse flamenca, mis en scène par Isabelle François. C'est l'histoire d'une femme qui ensorcelle son amant pour se l'attacher et qui va un peu trop fort. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être vu.
Donc, c'est les dates ?
C'est, je crois, les 5, 6, 7 et 8
voilà, la
novembre.
Dernière semaine.
La dernière semaine.
Pas la semaine prochaine, l'autre.
Voilà. Voilà. Donc, la journée, vous serez dans Plume et le soir, vous remettez ça avec ce spectacle.
C'est pas nous, hein, c'est Charo Beltran et Katia Poussa. Okay.
Et donc, si vous voulez vous procurer l'album de Georges Nounou qu'on trouve lors des concerts, mais aussi dans les
il est distribué par Mosaïque, donc il est partout.
Ouais, voilà, chez tous les disquaires. C'est Georges Nounou. L'album s'intitule Demi-sommeil. Donc, c'est le deuxième album. Le premier, c'était Nouvelle du front. Et voilà, Demi-sommeil, un album distribué par Mosaïque qu'on trouve dans tous les disquaires dignes de ce nom. Voilà, ben écoute, toujours un plaisir de se retrouver. On aura l'occasion de se revoir, de refaire encore de vagabonder.
C'est passé trop vite.
Ben oui. C'est passé trop vite, hein, donc il faudra recommencer. Comme je te le disais, ALND est déjà passé dans l'émission et on le repassera. Et d'ailleurs, peut-être que je te ferai venir pour qu'on parle un petit peu de choses et d'autres. Et
très volontiers.
On passera. En particulier ce morceau qui dure très longtemps.
Je suis soufflé.
Titre fleuve.
Je suis soufflé quand même qu'il y ait une radio qui osait passer à l'IND dans son intégralité. 16 minutes, c'est hors créneau, toute catégorie, et c'est super.
Et je pense qu'en même temps, comme je te disais, hein, si nous, dans les radios locales, dans les radios associatives, on ne passe pas ce genre de titre, d'abord pour son contenu, mais même par rapport à la longueur, ça ne doit pas être important pour nous. Je veux dire, si c'est pour faire la même chose que toutes les radios nationales, c'est pas la peine. Et s'il y a un morceau comme ça à sa place quelque part, c'est bien ici.
Respect.
Cédric, à la prochaine. Donc.
Oui, bonsoir.
Daniel, Georges, à bientôt. Et merci
bonsoir.
À Bruno, qui,
merci
je crois, a beaucoup apprécié là-bas. C'est régalé à pouvoir aussi, comme nous, vivre ce moment. Au revoir, à bientôt et bon vagabondage.